Yvan Bouillon, bonjour.
Bonjour Cyrielle, bonjour aux auditeurs de Alpe.
Et merci de m'accueillir ce matin dans votre bureau de la mairie de Barcelonnette. Vous étiez premier adjoint de la ville de Barcelonnette, devenu en août dernier le maire de la ville de Lubail après la démission de Sophie Vaginéricourt, une fois élue députée des Alpes-d'Haute-Provence. 6 mois à la tête de la commune. Quels sont vos premiers enseignements, peut-être un premier bilan de 6 mois?
Alors bilan, je pense qu'on ne tirera pas de bilan au bout de 6 mois. Ce qui est certain et évident pour ma part, c'est que nous avons assuré une belle continuité dans le sillage de Sophie Vaginet et que cette permutation qui était effectivement initialement tout à fait imprévue s'est passée à la fois dans des bonnes conditions et nous avons, je pense, repris le flambeau de manière intéressante, intelligente et très proactive. C'est vrai que j'étais premier adjoint finalement, j'ai été élu en 2001 déjà, j'ai travaillé avec Jean Chabre, après j'ai été, et c'est très formateur, pendant un mandat dans l'opposition, puis revenu aux affaires avec Pierre-Martin Charbonnel. C'est vrai que ça permet de, à la fois de rouler sa bosse et de savoir mettre en perspective les choses parce qu'on connaît bien sa ville.
Vous êtes aussi conseiller communautaire au sein de la communauté de communes de la vallée de Lubail-Serre-Ponçon, dirigée par la présidente Elisabeth Jacques. On sait que les relations entre la présidente et la députée ne sont pas forcément au beau fixe. Est-ce que ça vous impacte, vous, dans vos dossiers ou dans votre présence au sein du conseil communautaire ?
L'impact, il y a un historique qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, ça oblige à avoir une certaine persévérance, une certaine prévoyance, mais quelque part, je veux dire, on travaille, et je crois que tous les élus, et surtout les élus dans les petites communes, et on travaille tous pour le bien de notre collectivité. Moi, je travaille pour le bien de la collectivité de Barcelonnette, mais je suis aussi, en tant que finalement que maire de la capitale de Lubail, je suis aussi très désireux que Lubail avance, et je pense que tous les élus ont ce même désir, donc c'est le plus petit dénominateur commun, mais il est déjà assez énorme, et sincèrement, je trouve qu'on travaille bien ensemble de tous les côtés.
Malgré tout ? Parce que quand on dit persévérance, ça veut dire quand même qu'il faut y aller, ça veut dire qu'il faut discuter, qu'il faut amener des dossiers, des arguments.
Oui, l'échange, déjà l'échange existe, et l'échange n'est pas fermé. Donc à partir de là, moi, enfin, je sais pas, je pense que depuis 6 mois, les Barcelonnettes s'en sont aperçues. Et puis bon, finalement, je suis né à Barcelonnette il y a 60 ans. Et à part une dizaine d'années d'expérience universitaire ou professionnelle à l'extérieur de la vallée, j'y ai toujours passé toute ma vie. Les gens savent que je suis probablement quand même quelqu'un de consensuel, d'écoute, de dialogue. Et c'est la clé pour avancer. Donc il n'y a pas de blocage. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre des budgets, faire des demandes à la communauté de communes. Et je pense sincèrement que la communauté de communes répondra à nos attentes.
Quel dossier, pardon.
Quel dossier ? Eh bien, il y a des dossiers qui sont d'évidence intercommunale. Nous avons eu une grosse difficulté il y a quelques mois sur les travaux de la salle multisport. Aujourd'hui, après avoir rénové l'enveloppe énergétique, il s'agit de refaire l'intégralité du sol de la salle qui a 30 ans et qui, même s'il a été parfaitement conservé, doit être refait. Eh bien là, effectivement, nous demandons que la communauté de communes participe à la rénovation de ce sol, puisque la salle multisport, c'est la salle intercommunale par excellence. Et puis, je sais que, par exemple, nous avons un dossier qui arrive. Là, c'est la fourrière. La fourrière est utilisée par Barcelonnette, mais par toutes les communes. Aujourd'hui, l'agrément de la fourrière disparaît. Il va falloir reconstruire une fourrière. Ça n'est pas un budget énorme.
Combien ?
A priori, de l'ordre de 100 000 euros quand même. Mais je pense que... J'espère que les élus intercommunautaires seront favorables à partager un peu ce fardeau qu'il n'y a pas de raison que Barcelonnette assume.
Vous faites appel à la solidarité intercommunale.
Oui.
Interviewée en janvier dernier, Sophie Vaginéricourt se félicitait de l'implantation du centre de préparation des Jeux Olympiques du côté du Sceaux-Supersauce, mais elle regrettait un point, c'est qu'à un moment, il était envisagé que ce centre de préparation soit du côté plutôt de Barcelonnette, hein, on le rappelle, avec un bâtiment militaire qui aurait pu être cédé à la région à l'euro symbolique, sauf que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Hervé Lieberman, qui est vice-président de la région Sud, s'en est expliqué en disant que c'était beaucoup plus intéressant financièrement d'aller aux Sauzes Super Sauzes. Quel est l'avis du maire de Barcelonnette ?
L'avis du maire de Barcelonnette, c'est qu'il faut être pragmatique et qu'il faut savoir justement prendre du recul par rapport au dossier. Nous, si le centre est à Barcelonnette, c'est parfait, il est au centre de la vallée. En revanche, c'est vrai que financièrement parlant, le jour où on a fait la visite de l'ancien, enfin, ce qui sera probablement l'ancienne CCAS aux Sauzes, il y a une évidence que il y a des infrastructures qui sont déjà là et on ne peut pas faire l'impasse. Alors la décision était probablement, je ne sais pas, sur du 50-50, ben, cette décision a basculé sur le Sauzes. En revanche, ce qui est évident aussi, c'est que Barcelonnette va ou possède déjà les infrastructures qui vont permettre d'entourer ce centre d'entraînement de sportifs de haut niveau.
C'est ce que disait Sophie Vaginericourt, c'est dommage parce que les équipements, ils étaient sur place, ils sont à Barcelonnette, comment ils vont faire du côté du Sauzes ? Il faudra bien forcément amener les athlètes ici.
Oui, il faudra les amener ici. Alors Barcelonnette n'est pas une grande ville. Si on est implanté à un endroit, je ne suis pas certain qu'ils courent tous pour aller jusqu'au stade. Donc il faudrait des déplacements. Le déplacement du Sauzes à Barcelonnette n'est pas énorme. En revanche, c'est vrai que si on était dans le quartier Craplé, il y a aussi déjà le mur d'escalade, le dojo. Mais bon, après, est-ce qu'on peut refaire éternellement le match ? Aujourd'hui, il y a une décision qui est prise. On va pas. Et puis surtout, les Jeux Olympiques, eux, ils arrivent à toute allure. Alors,
c'est la question que j'allais vous poser, c'est JO 2030, vous voyez quoi ? Comme une manne, un levier ?
Alors, on ne va pas parler de manne parce que ça voudrait dire que l'argent tombe du ciel et que ça arrive par hasard. Non, je crois que...
C'est ce que les gens ont l'impression aujourd'hui. On a un discours d'un côté qui est de dire il y a un déficit public, il n'y a plus d'argent. Et de l'autre côté, on y va à coups de millions sur les routes, sur les rails. Et les gens ne comprennent pas forcément d'où vient cet argent.
Alors, l'argent, il vient, je pense, déjà principalement du fait que si on parle de l'argent de la région Sud-Provence-Côte d'Azur a la chance d'être une région qui est globalement... est plutôt une région riche. Donc, en fait, par rapport à des régions qui sont déprimées, le conseil régional de la région Sud peut envisager de travailler et de développer ses services publics avec des ressources financières qui lui sont propres. Et les services publics, c'est aussi le désenclavement des massifs. Il ne faut pas que le 05 et le 04 soient les parents pauvres. Arnaud Murgia à Briançon, le Fort des Têtes, c'est, je pense, un casse-tête depuis des dizaines d'années. Il a la possibilité de pouvoir réhabiliter cette vieille installation militaire. Il faut savoir en profiter. Et je pense que ça n'allégera pas. Puisque c'est une question d'actualité, ça n'allégera pas l'impôt des provinciaux.
Mais que restera-t-il pour l'UBAI ? Alors, en effet, il y a presque un coup manqué, il n'y aura pas d'épreuve dans les Alpes-de-Haute-Provence, il y aura quand même ce centre de préparation en Sauzes Super Sauzes. Que restera-t-il pour l'UBAI ? La question, c'est qu'est-ce qu'il sera fait pour l'UBAI par rapport à ces JO, en marge de ces JO ?
Alors aujourd'hui, on est dans le recensement. Les Jeux Olympiques, on parle déjà de l'aspect sportif. Et grâce aussi à l'implication de Eliane Barail, la présidente du conseil départemental, je pense qu'on a des planètes qui sont alignées pour qu'on arrive à réaliser des choses. Il fallait peut-être pas rêver les Jeux Olympiques, on peut pas... Est-ce que l'idée c'est de saupoudrer des épreuves un peu partout et finalement qu'il en reste pas grand-chose ? Il était logique, à mon sens, que bah, finalement, Nice récupère les sports de glace. La région de Briançon, on va récupérer les skis, les formes de ski les plus modernes. Mais grâce au département, grâce à la région, l'UBAI, qui est finalement au barycentre de ces deux pôles, va pouvoir bénéficier aussi d'un attrait, d'un développement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir... en profiter, surfer sur la vague. Qu'est-ce qu'il en restera ? Il en restera, j'espère, des belles installations. Ce centre sportif de haut niveau va avoir son rayonnement. Si la ville de Barcelonnette continue à avoir ou peut présenter la ville et la vallée des installations, un stade rénové,
ce fameux stade, Sophie Virginie en parlait, en disant aujourd'hui les enfants jouent les pieds dans la boue, il faut faire quelque chose.
Ah, mais il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, malheureusement, il a été en plus largement impacté par les inondations de décembre 2023. Donc c'est vrai qu'il n'est plus aux normes. Le club de foot nous dit que bientôt, ils n'auront peut-être plus la possibilité de jouer. C'est une priorité.
Et donc,
les Jeux Olympiques n'étaient pas là, je ne sais pas comment on arrive à financer le ticket pour avoir éventuellement un synthétique, pour refaire une piste d'athlétisme qui soit aux normes.
C'est ce qu'il a envisagé, là.
Ben, je pense, oui, absolument. La piste d'athlétisme fait 360 mètres. Une piste d'athlétisme, ça fait 400 mètres. Il faudra qu'il y ait une piste d'athlétisme de 400 mètres, parce que sinon, quelque part, ça ne sert à rien de poser la première pierre du centre d'entraînement s'il n'y a pas autour les infrastructures qui vont avec. Et ça sera profitable pour toute la vallée. Et au-delà, je pense, finalement, pour les Provençaux en général.
L'un des plus gros projets sur votre commune de Barcelonnette, c'est le programme OPARU, hein, Opération d'aménagement de l'habitat et de renouvellement urbain. Il va s'étaler jusqu'au dernier trimestre 2029. Tout d'abord, ce sont des logements privés qui sont concernés du centre historique de Barcelonnette. Quel est l'état des lieux de l'habitat dans votre ville?
Alors, l'OPA... RU, donc RU qui signifie rénovation urbaine, sera à l'échelle de l'ensemble de la vallée, de la ville. Elle va être plus concentrée sur effectivement le vieux centre historique qui lui souffre aussi d'une désaffection des habitants parce que la structure du bâti a vieilli et qu'on a des bâtiments qui sont...
Insalubres
Énergivores. Et surtout énergivore. Ouais. Alors l'énergie sera traitée sur l'ensemble de la commune. L'énergie est l'adaptation au logement. Et l'adaptation, c'est ce qu'on appelle, donc, enfin, l'exemple le plus classique, c'est je vieillis, je veux rester dans mon appartement, je transforme ma baignoire en douche qui me permet d'accéder, de rester plus longtemps à domicile. Mais le vieux centre-ville, effectivement, l'idée de l'OPA, et l'État participe avec beaucoup de crédit, c'est d'avoir des crédits à la fois, et ça c'est nouveau, parce qu'il y a des années, il y a eu des opérations, elles n'ont pas marché, mais c'est à la fois pour les propriétaires occupants, et donc j'habite dans un appartement qui est vieux et qui n'est plus aux normes, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir rénover avec des aides importantes mon logement. Et puis ensuite... ça permettra de remettre normalement de l'habitat sur le marché locatif. C'est-à-dire, je suis propriétaire, mais je souhaite mettre à bail. Je récupère des subventions et j'offre des loyers parce que la crise du logement, elle est nationale, oui. Mais qui dit nationale dit qu'à l'échelle locale, ça se répercute. Et c'est très compliqué. On a un projet aussi, par exemple avec la communauté de communes, de pouvoir proposer dans un bâtiment qui a été racheté par la ville au travers de l'établissement public foncier PACA, de remettre, d'installer un centre pour les saisonniers, parce que là aussi il y a une vraie
problématique. J'allais vous poser la question, quel bâtiment? Vous parlez de quel bâtiment pour les Barcelonnettes?
Eh bien, je parle du bâtiment là que alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais moi je le vois d'ici par la fenêtre. C'est entre l'école et la mairie et pouvoir faire un mix à la fois d'un joli jardin qui permettra de rénover l'entrée de l'école, parce que pour l'instant, j'ai l'habitude de dire un parking c'est bien, mais un jardin c'est mieux. Donc une belle entrée pour l'école, sympathique, verte, aérée, où on pourra éventuellement pique-niquer. Et juste derrière, ce bâtiment sur lequel pour l'instant on discute avec la présidente de la communauté de communes, pour que dans le cadre de sa compétence économique, la communauté de communes vienne transformer le bâtiment pour en faire un habitat de saisonnier.
Voilà, c'est là le bas du problème. Et j'allais vous poser cette question. Ce sont aujourd'hui les saisonniers qui viennent travailler dans la vallée, mais dans d'autres vallées, ça concerne toutes les Alpes du Sud, et qui trouvent un emploi, mais qui ne trouvent pas de logement. Ou trop cher.
Ah oui, mais on sait les constats. Là, j'ai été à Digne il y a quelques jours. Les constats sont évidents.
Pour le panorama études... Action Logement oui, qui est mis en place.
C'est ça. Toutes les études démontrent que c'est un vrai besoin. Alors, je pense qu'on a une solution. Alors, elle est partielle, mais
Parce que combien de saisonniers pourraient être accueillis?
À côté de là, j'ai pas encore l'idée du.
Vous êtes déjà en train de réfléchir.
Là, je vous dis, c'est un dossier plutôt communauté de communes, mais il s'agit de faire une étude de faisabilité dans le bâtiment. Mmh. Non, on est quand même sur probablement, je sais pas, entre 10 et 20 logements.
C'est une solution.
C'est déjà, c'est un embryon problème. De solution. Oui. Et je suis certain que finalement, il sera utilisé. Et puis en plus, il est en plein centre-ville. Ça signifie que les gens, pour monter en station, si je suis saisonnier, il faut que je monte en station. Je ne prends pas ma voiture pour ne pas utiliser les parkings des stations. J'ai la navette qui est là à 50 mètres, donc ça marche bien.
On parle aussi beaucoup de santé dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, ce qui revient, bien sûr, ce sont les fermetures des urgences du côté de Manosque. Récemment, je me suis déplacée du côté de Fort-Calquier où j'ai rencontré le maire David Géant qui a porté un projet, sa communauté de communes et sa commune, ce fameux centre de soins non programmé. Est-ce que ça, c'est aussi un embryon de solution pour ces problématiques de santé dans les Alpes d'Haute-Provence, ces bas alpins qui n'ont pas de médecin traitant, ou alors qui ne trouvent pas de créneau pour aller voir leur médecin, ou alors qui tombent face à des urgences qui sont fermées?
Alors, il est évident qu'on est là, on touche vraiment à l'humain et que les solutions doivent être apportées. David Géant, que je connais bien et avec qui je partage beaucoup de valeurs, travaille sur cette solution-là. Mais je crois que à chaque territoire, solution adaptée. Nous avons la chance en Ubaï d'avoir développé une maison de santé interdisciplinaire qui marche bien, qui est remplie, qui aujourd'hui il y a 5 médecins, il y a des kinés, il y a...
Une pédiatre qui arrive.
Oui, l'une des médecins est effectivement pédiatre. Non, je crois qu'on avance. Historiquement, l'Ubaï a toujours fonctionné de manière un peu autonome. On vient de rénover l'hôpital. Il n'y aura jamais ni de service d'urgence, ni de chirurgie à l'hôpital de Barcelonnette, parce que c'est trop lourd. En revanche, il y a aujourd'hui un médecin en permanence à l'hôpital depuis quelques mois. Il y a un médecin qui est attaché puisqu'il y a des lits de médecine qui permettent aussi d'ailleurs d'avoir des... Quand les hôpitaux du reste, enfin à Gap, sont trop chargés, les gens peuvent venir à Barcelonnette. Et quand on regarde par la fenêtre, c'est quand même très agréable parce que l'hôpital est tout neuf. Il a des installations qui sont magnifiques. Il a un personnel dévoué. Donc je pense que la situation est vraiment meilleure depuis quelques années. La maison de santé est pleine, il y a des médecins, il y en a un qui vient de s'installer encore récemment au Lozé. J'avais au téléphone une dame l'autre jour dont le mari est médecin et qui aimerait beaucoup, elle est véto, elle aimerait beaucoup venir s'implanter en Ubaï.
Son mari. On y arrive, parce que ça, c'est souvent la question qui revient. Mais comment les médecins peuvent venir s'implanter dans les Alpes d'Haute-Provence? Comment leur donner envie? Elle y est, l'envie?
Oui. Mais je crois que le cadre est presque idyllique. Aujourd'hui, la proximité, c'est ce que je voulais dire. Finalement, si vous êtes évacué dans un cas vraiment d'une grosse urgence en hélicoptère, vous êtes à une demi-heure de Gap. Si vous êtes par la voiture, les ambulances, ils arrivent à vous descendre en 45-50 minutes. Ça n'est pas beaucoup plus long que si vous êtes à 20 ou 25 kilomètres de Gap. Donc je pense qu'on arrive à trouver et à proposer des bonnes solutions. Moi, je pense que l'Ubaï, Barcelonnette, est l'endroit idéal pour venir passer sa retraite. Le troisième âge, après, se posera éternellement la question du quatrième âge. Et là, les gens, naturellement, ils ont tendance à vouloir se rapprocher d'un grand centre hospitalier. Mais venir passer 20 ans en Ubaï, au soleil, pouvoir faire du ski, de la randonnée, venir écouter des concerts. C'est pas parce que je suis ubaïen,
pouvez être chauvin. Voilà. On a compris que le cadre, vous l'avez dit, est presque idyllique. Les projets sont là. Est-ce que l'envie est là pour 2026? Je ne serais pas journaliste si je ne posais pas cette question.
Cyrielle, je me demandais quand est-ce que vous me poseriez la question. À la fin. Et puis bon, ce qui était évident, c'est que de toute manière, je savais qu'elle allait venir. Et Bien évidemment, c'est dans l'esprit de tout le monde. Là encore, il y a quelques minutes, avant de monter ici à l'étage de la mairie, je croisais un administré, un colonel en retraite, qui est plein de projets. Je lui disais que tiens, on allait travailler sur la réfection du monument aux morts, qui est classé monument historique cette année. Il me disait « Ah, et toi, l'année prochaine, tu fais quoi ?» Je lui disais « Bah, j'en sais rien ». Alors, c'est une réponse convenue.
Vraiment, vous n'en savez rien ?
C'est une réponse convenue. Et puis, il me dit « Ah, mais quand même, allez !» Et bon, ben, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit « Écoute, je pense que je me sens suffisamment à l'aise et je crois qu'aujourd'hui, ce début d'exercice de la fonction, les gens voient, je pense que je suis à l'aise, ils renvoient une image positive de notre action. » Donc,
ça vous donne envie de continuer.
Voilà, ça donne envie. Après, il va falloir constituer une équipe et continuer.
Et continuer, voilà. Donc, c'est un maire qui se représentera en recherchant, bien sûr, son équipe. Merci beaucoup, Yvan Bouguillon, de nous avoir accueillis ce matin du côté de Barcelonnette. Merci à vous.
Merci, Cyrielle.